Il est 9h sur France Culture. Et 30 secondes, voici Catherine Dutu pour le journal. Bonjour Catherine.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Les soutiens de François Hollande contre-attaquent après l'annonce d'Arnaud Montebourg de se présenter à la présidentielle de 2017. Hier, l'ancien ministre du redressement productif annonçait sa candidature parce que l'actuel président a selon lui gâché le quinquennat. Arnaud Montebourg se sent donc obligé de se déclarer candidat à la présidentielle de 2017. Outrance et caricature, rétorque ce matin Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, et de juger qu'Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Cécile Duflot, trois anciens ministres de François Hollande, désormais candidats à l'Élysée, n'ont pas su, je cite, passer de la culture de l'opposition à la culture de partie de la majorité. Et c'est dans ce contexte tendu à gauche que François Hollande recevra dans une heure maintenant à l'Élysée le dernier conseil des ministres de son quinquennat. L'exécutif réunit au grand complet pour afficher sa cohésion à 8 mois de la présidentielle. Yael Gauze.
À gauche, à droite, c'est la saison des candidatures, alors le président s'est fixé une règle, se tenir loin du marigot politicien, comme dit l'un de ses proches. Encore 8 mois de travail utile, une loi de finances, la dernière à l'automne, et des priorités, terrorisme, Europe, emploi. Voilà ce que François Hollande va rappeler tout à l'heure à ses troupes, le gouvernement reçu au grand complet, avec ses 38 ministres et secrétaires d'État. Puis direction la petite île italienne de Ventotene, au large de Naples, pour une réunion à trois avec Angela Merkel et Matteo Renzi. Objectif, construire la réponse politique au Brexit. La rentrée politique et la rentrée en librairie. Le président est partout. Pas moins de 5 livres consacrés à François Hollande sont sortis ou vont sortir. Pas de off, il se confie, transparence assumée. Nous avons changé d'air démocratique, dit un proche. François Hollande invente le concept d'inventaire permanent. Un moyen aussi d'expurger les épisodes douloureux dans la perspective d'une candidature en 2017.
Et vous l'entendiez, après ce conseil des ministres, François Hollande va s'envoler pour la petite île de Ventotene au large de Naples pour y retrouver Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien, et la chancelière allemande Angela Merkel. Ce rendez-vous européen à trois va servir à discuter de l'après-Brexit et à préparer le sommet des 27 à Bratislava, prévu le 16 septembre prochain. Nabila Hamel.
Donner une impulsion nouvelle à l'Europe, c'était l'objectif qu'avait déjà affiché François Hollande, la chancelière allemande et le président du Conseil italien le 27 juin, soit 4 jours seulement après le coup de tonnerre du Brexit. Aujourd'hui, ils poursuivront leurs réflexions sur l'île de Ventotene, puis un dîner de travail est prévu à bord du Garibaldi, navire amiral de la marine italienne qui abrite le dispositif Sophia chargé de la lutte contre les passeurs et le trafic d'armes en Méditerranée. Ce rendez-vous prépare le prochain sommet de Bratislava, jugé crucial. Il est censé mettre sur les rails une série de projets destinés à rassurer une Europe frappée par le terrorisme, marquée par la crise des réfugiés et enfin par la sortie de la Grande-Bretagne. Sécurité, lutte contre le terrorisme et renforcement des frontières extérieures y seront à l'ordre du jour. Un nouveau système appelé ETIAS devrait prochainement être mis en place, un peu comme le font les États-Unis avec leur dispositif ESTA. L'équivalent européen vise à contrôler l'identité des personnes candidates à une entrée dans l'Union. Autre sujet de réflexion, la défense européenne et ses nouveaux défis. Face à un monde en grande instabilité, les dirigeants européens auront à repenser cette défense en matière de moyens et aussi en tenant compte de la sortie programmée du Royaume-Uni et donc de la perte d'une capacité militaire. Pour les jeunes, principales victimes du chômage en Europe, les 27 prévoient d'élargir aux collégiens, aux lycéens et aux apprentis le programme Erasmus d'échange d'étudiants. Après la rencontre à Troyes d'aujourd'hui en Italie, d'autres rendez-vous sont prévus entre dirigeants européens avant le sommet de Bratislava.
On en sait plus sur l'auteur de l'attentat suicide qui a fait 51 morts dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un mariage à Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie. Il s'agit d'un jeune homme qui avait probablement entre 12 et 14 ans. Et cet attentat suicide porte probablement la signature du groupe État islamique. C'est ce qu'a annoncé hier le président turc. Un procès inédit s'ouvre aujourd'hui à La Haye, devant la Cour pénale internationale. Un djihadiste malien plaide coupable de crimes de guerre pour destruction de patrimoine culturel. Les mausolées de Tombouctou, qui ont été détruits en grande partie en 2012 par des groupes affiliés à Al-Qaïda. La correspondance d'Anthony Fouchard au Mali pour RFI, pour France Culture.
Le mausolée Alpha Moya de Tombouctou a été un des premiers vandalisés par les djihadistes. Alpha Sanchirfi est l'actuel gardien de ce lieu sacré. Il se souvient parfaitement du jour où les islamistes s'en sont pris au symbole de la ville.
il y a eu une prêche un vendredi. Il parlait d'idolâtrie, de mausolées qui étaient interdits, ceci, cela. Et donc le lendemain, le samedi, ils sont passés au niveau de certains mausolées qui n'ont pas de suite cassé, mais ils ont brisé les portes, ils ont détruit ce qu'il y a à l'intérieur.
Une semaine après, les djihadistes reviennent finir le travail. Alpha Sancherfi assiste impassible avec les autres habitants aux scènes de destruction.
On était vraiment sidérés, mais nous avons gardé notre calme parce que nous nous sommes dit que le mausolée n'est qu'un symbole. Un symbole, on ne peut pas le détruire. Parce que les symboles, quand ils détruisent le symbole, ça devient encore plus fort. Leur intention première, c'était de choquer. Donc ils ont dit que bon, vraiment, s'ils s'attaquent au sein, les populations vont réagir et ce serait pour eux l'occasion de sévir.
Alpha Sancherfi se souvient d'Al-Faqi, un simple professeur d'arabe, dit-il, devenu un idéologue et le chef de la brigade islamique des mœurs à Tombouctou. Après les mausolées, ils s'en sont pris aux hommes, explique-t-il. Ils voulaient détruire tout ce en quoi nous croyons et ils n'ont pas réussi.
Anthony Fouchard, correspondant au Mali pour RFI et France Culture. Retour en France, durement touché par la crésulée, les éleveurs de l'Ouest ont prévu de se rassembler à Laval, en Mayenne, pour manifester devant le siège de Lactalis, le géant mondial des produits laitiers, accusé par les syndicats agricoles d'être un mauvais payeur. Les éleveurs promettent de rester sur place tant qu'ils n'auront pas obtenu une revalorisation du prix du lait. Le reportage en Mayenne de Yann Gallic.
Désabusé, à 30 ans, Alexandre Pichard ne se fait plus guère d'illusions sur l'avenir de son métier. Pourtant, en 2009, ce jeune éleveur a repris avec enthousiasme l'exploitation familiale, 200 bovins et 130 hectares de terre. Mais aujourd'hui, Alexandre vend son lait 30% moins cher qu'il y a 2 ans. Il travaille avec sa femme. Le couple gagne à peine 1000 euros par mois.
On travaille à perte depuis 1 an et demi. On perd à peu près 3 à 4 000 euros par mois. Donc, faites le calcul, par 12 mois, il va falloir qu'on trouve des solutions pour payer nos échéances à la fin de l'année. Le moral n'y est plus. Hein. Enfin, franchement, donc là, bah, on arrive qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, bah, ils se demandent s'il faut bien aller au boulot. Ou moi, le premier, je me dis combien je perds par jour, quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui se lèveraient le matin pour faire ça.
Les éleveurs dénoncent une répartition inégale des marges qui profite aux laiteries industrielles comme Lactalis. Jérémy Trémaux est le président des jeunes agriculteurs de Mayenne.
Lactalis ne joue pas du tout le jeu. Il faut absolument qu'on arrive à changer cette méthode de calcul du prix du lait. Il y a quand même un problème de répartition de marge sur l'ensemble de la filière. Et surtout chez les éleveurs qui doivent retoucher au moins le fruit de leur travail. Il faut vraiment que les industriels fassent les efforts. Il va falloir qu'on obtienne des choses. Si on refuse de se battre, c'est qu'on acceptera de mourir. Et ça, moi, j'accepterai pas de mourir sans me battre.
À la colère des éleveurs, Lactalis oppose la loi du marché dans un contexte de surproduction. Le groupe laitier affirme même que parmi les grands pays producteurs, la France est celui où le prix du lait reste le plus élevé.
Reportage signé Yann Gallic. Un mot du temps, de ce lundi, le soleil va s'imposer sur l'ensemble du territoire. Au meilleur de la journée, il fera de 26 à 34 degrés au sud, entre 22 et 28 degrés dans la moitié nord du pays. Un grand merci à Yacine Bouzard et Martin Descloseaux pour leur aide dans la préparation des journaux ce matin.